et bienvenue dans cette émission. Insécurité alimentaire aiguë sévère en RDC. Le nombre de personnes qui meurent de faim est passé de 15 600 000 en 2019 à 21 800 000 en 2020, selon la FAO. Des chiffres livrés à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Et pour combattre cette insécurité alimentaire, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a besoin de 155 millions de dollars américains pour accompagner le gouvernement de la RDC dans un programme axé notamment autour de la gouvernance du secteur agricole, pêche et élevage. Qu'est-ce qui explique cet accroissement du nombre de personnes en insécurité alimentaire? Et que faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en RDC? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission Aristide Ongon Obam. Il est représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en RDC. Bonsoir, monsieur Aristide Ongon Obam.
Oui, bonsoir, bonsoir. Merci de me donner cette opportunité.
Joseph-Antoine Kasonga Mukuta, il est ministre de l'Agriculture du gouvernement congolais. Il n'est pas encore là. On me signale qu'il sera avec nous dans peu de temps. Victor Ndouzi, coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Bonsoir, monsieur Victor Ndouzi.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nous le disions au sommaire de cette émission, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë sévère en RDC est passé de 15 600 000 en 2019 à 21 800 000 en 2020, selon le représentant de la FAO RDC, Aristide Ngon Obame. Il était l'invité de la conférence de presse des Nations Unies d'hier mercredi à Kinshasa, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Et pour combattre cette insécurité alimentaire, il a révélé que la FAO a besoin de 155 millions de dollars américains pour accompagner le gouvernement de la RDC dans un programme axé autour des quatre priorités et étendu de 2019 à 2023. Les propos du haut fonctionnaire des Nations Unies sont recueillis ici par Honoré Missenga Kalala.
La première priorité, c'est la gouvernance du secteur agricole, pêche, élevage. Il faut, bien entendu, que ce secteur ait les capacités de répondre aux besoins des populations. La deuxième priorité, c'est le renforcement et le développement de tout ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les filières dans les secteurs végétal, animal et aquatique. La troisième priorité, c'est la promotion d'une gestion durable de l'environnement et, bien entendu, la protection des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique devient un domaine qu'il faut prendre désormais en compte dans toute politique de développement du secteur rural. Enfin, nous avons la résilience. La résilience des populations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ces populations soient résilientes aux différents chocs dont ils sont victimes face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Monsieur Aristide Ongon Obame, je rappelle que vous êtes représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en RDC. Quels sont les facteurs sur lesquels vous êtes basé pour aboutir à cette conclusion selon laquelle le nombre de personnes en situation de sécurité alimentaire aiguë sévère en RDC est passé de 15 600 000 en 2019 à 21 800 000 en 2020?
Ok, merci de me donner cette opportunité, mais permettez-moi de rectifier rapidement ce que vous avez dit dans le générique en commençant l'émission. Nous ne parlons pas des gens qui meurent de faim en RDC, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des personnes qui sont en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à s'alimenter comme il faut, et ceci sur une durée relativement longue. Alors, pour répondre maintenant à votre question, nous faisons en RDC des enquêtes depuis 2007. Nous sommes au 18e cycle aujourd'hui. Chaque année, ces enquêtes sont faites pour mesurer le niveau d'insécurité alimentaire dans le pays. Alors, c'est ce que nous appelons l'IPC. Bon, pour être rapide et ne pas prendre trop de temps, quels sont, par exemple, comme vous posez la question, les facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation? Alors, les facteurs que nous connaissons depuis plusieurs années sont naturellement tout ce qu'il y a comme conflit, l'insécurité, tous les types de conflits que vous connaissez en RDC qui ont entraîné des déplacements de population, Ça, c'est un facteur très important. Le second facteur qu'il faut prendre en compte, c'est tous les chocs climatiques naturels que nous avons en RDC et qui sont assez récurrents, assez fréquents dans un certain nombre de provinces. Le troisième facteur qui est venu s'ajouter à ça, c'est la pandémie de la COVID-19 qui, effectivement, avec toutes ces mesures barrières qui ont été prises, n'ont pas permis une circulation normale des produits alimentaires. La chaîne a été brisée à plusieurs endroits, ce qui fait que les gens n'ont pas pu s'approvisionner. Ça explique que nous arrivons aujourd'hui à des niveaux relativement élevés de personnes en insécurité alimentaire en RDC. De manière globale, c'est ce chiffre-là que nous avons validé aujourd'hui avec le ministre à 21 800 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire. Pas qui meurent.
Mais c'est
une grande différence.
Oui, nous avons compris, ils ne meurent pas, mais ils sont en insécurité alimentaire. Certaines initiatives ont été prises par les différents gouvernements de la RDC avec comme objectif ultime de permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est notamment la commande et la distribution d'un nombre important de tracteurs aux agriculteurs il y a de cela quelques années. Il y a aussi le projet Bukangalonzo et il est de notoriété publique que ces initiatives n'ont jamais produit les résultats attendus. À votre avis, qu'est-ce qui explique l'échec de ces genres d'initiatives? C'est toujours lié à cette mauvaise gouvernance dans les secteurs de l'agriculture?
Oui, il y a ça. Il y a la gouvernance. Il y a aussi, dans la gouvernance, nous incluons aussi le renforcement des capacités. Parce que pour effectivement qu'un secteur fonctionne correctement, il faut que les animateurs de ce secteur soient correctement formés, qu'ils aient des formations qu'il faut. Oui, il y a ça, il y a la gouvernance, il y a le fait qu'il faut renforcer les capacités, mais il y a aussi les politiques globales. Vous savez, quand on fait une loi de finances dans un pays, il faut regarder avec un œil la part qui est accordée au secteur agricole. Et si vous regardez les lois de finances de la RDC depuis un certain nombre d'années, vous allez certainement remarquer que l'agriculture n'a pas toujours été le secteur qui a reçu des financements conséquents pour un développement réel et durable. Ce que nous essayons de faire, non seulement d'accompagner le ministère de l'Agriculture à renforcer ses capacités dans les quatre domaines de que j'ai cités hier, mais également de faire nos plaidoyers auprès de d'abord par le gouvernement. Parce que le premier plaidoyer, c'est face au gouvernement. Est-ce que le gouvernement va s'engager de manière ferme à mettre les financements qu'il faut pour développer ce secteur? Ensuite, notre rôle aussi, c'est d'aller vers les partenaires qui accompagnent la RDC dans le secteur agricole pour demander un peu plus d'assistance, un peu plus de financement, parce que ce pays en a besoin. Si sur ces deux points-là, on arrive à avancer positivement, je pense que la RDC peut, dans un délai relativement court, trouver une solution à cette situation dramatique que nous connaissons aujourd'hui.
Est-ce qu'il existe aujourd'hui un cadre d'échange entre les experts de la FAO et le gouvernement congolais? Monsieur Aristide, je pose cette question pour savoir si quand certains projets sont entrepris par le gouvernement de la RDC, son partenaire, la FAO, peut être consulté pour donner son avis?
Oui, bien entendu. Nous avons la FAO dans chaque pays où on est présent, et on est présent partout dans le monde. Dans chaque pays, nous avons un cadre, on appelle cadre de programmation pays. C'est-à-dire que c'est un document que nous élaborons avec le gouvernement pour identifier ensemble les priorités du pays pendant une certaine période. La période que nous avons retenue, c'est 2019-2023. C'est-à-dire que ce cadre a été signé entre le gouvernement et la FAO, et dans ce cadre, on a identifié les priorités sur lesquelles le gouvernement attend les appuis de notre organisation. Quand je parle d'insécurité, il y a aussi les épidémies. Parce que vous savez, toutes les maladies qu'on appelle zoonoses, ce sont ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, et peut-être vice-versa. Et vous savez qu'on a des exemples frappants en RDC, et tout ceci est du domaine de compétence de la FAO. Toute maladie qui peut passer d'un animal à l'homme est de la compétence de la FAO. Et nous accompagnons aussi le gouvernement pour renforcer ces aspects-là.
Monsieur Aristide, et s'il vous était demandé de donner votre avis lors de la conception des projets dont nous avons parlé ici, Bukangalonzo et la commande et la distribution d'un nombre important de tracteurs à l'époque, s'il vous était demandé, n'est-ce pas, de donner votre avis au gouvernement, qu'est-ce que vous auriez conseillé au gouvernement congolais à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, on va parler au passé.
Oui, au passé, oui.
Peut-être qu'à l'époque, on aurait conseillé le gouvernement à avoir un regard beaucoup plus conséquent sur les petits producteurs, l'agriculture familiale. Parce que nous savons que près de 80% des ruraux vivent de l'agriculture. C'est l'activité principale. Et si effectivement on veut sortir ce pays de la précarité, de la pauvreté en milieu rural, ça passera par le développement de l'agriculture. Et cette agriculture, pour l'instant, elle est beaucoup plus familiale. Je ne dis pas que les agropoles ne sont pas intéressants. On peut les développer. Ça peut servir de centre d'intérêt qui vont appuyer tous ces petits agriculteurs. Mais encore faut-il mettre à la disposition de ces petits agriculteurs les intrants de qualité pour que cette agriculture puisse valablement se développer et de manière durable.
Merci, on vous garde encore dans cette émission, M. Aristide. Joseph-Antoine Kasonga Mukuta, ministre de l'Agriculture du gouvernement congolais, on me dit qu'il est là. Bonsoir, M. le ministre.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va bien, M. le ministre. Nous parlons de ces conclusions auxquelles la FAO a abouti. Hein, le nombre de personnes en situation de sécurité alimentaire aiguë sévère en RDC est passé de 15 600 000 en 2019 à 21 800 000 en 2020, environ les quarts de la population. Vous, en tant que membre du gouvernement, comment vous réagissez à ces chiffres qui, il faut le dire, monsieur le ministre, effrayent?
Exact. Ça effraie tout le monde. Nous tous, on est conscients. Mais d'où vient tout ça? Je crois que notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a lancé un slogan qui dit « La revanche des sols sur les sous-sols ». Ça résume beaucoup pour des gens de ma génération qui ont vécu dans ce pays. Le Congo est un don béni de Dieu. La nature elle-même, nous sommes à cheval de l'Équateur, sans irriguer notre agriculture, on peut produire toute l'année, parce que dans l'hémisphère nord, quand nous sommes en saison sèche, dans le sud, il pleut. Dans l'hémisphère sud, quand il pleut, dans le nord, c'est la saison sèche. Mais en moins, que dit ce slogan-là? Nous avons tourné nos regards longtemps vers les mines, et les mines ne nous ont apporté que de la mort. Et même ce que nous venons de dire là, l'instabilité de nos populations. Nous avons une population très dynamique qui veut bien, très bien travailler. Mais quand on est tué à tout moment parce qu'on veut avoir les minéraux, quand on est déplacé à tout moment, on ne peut rien faire. Et je vois tous les écrits dans le monde entier. Voilà, c'est un pays où il y a la malnutrition, c'est un pays... On raconte tout. Mais l'humanité oublie aussi que le Congo démocratique a participé beaucoup pour l'humanité. Le caoutchouc est parti de ce pays pour les pneus de véhicules. La bombe atomique est partie de ce pays. Aujourd'hui, c'est le coltan. Et tout ça a été fait que pour tuer les gens.
S'il faut parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, vous avez évoqué ce slogan du chef de l'État qui dit la revanche du sol sur le sous-sol. Et depuis que ce slogan a été lancé, qu'est-ce qui a été fait concrètement aujourd'hui, monsieur le ministre?
Vous m'avez interrompu parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, on croit que nous sommes incapables de produire. Non, nos populations produisent. Mais il faut soulever ces problèmes. Ça ne peut pas nous gêner de dire que les guerres inutiles déstabilise même les zones de grande production, comme l'Ituri et tout ça. C'est des guerres voulues. Alors, maintenant, vous demandez ce qu'on a fait, je reviens sur ce que nous faisons. Je crois que le représentant de la FAO vous a parlé que j'ai lancé un programme, donc un plan de relance pour toute la République, qui est dans les 4 400 000 000 de dollars, pour que partout il y a nos compatriotes dans les 260 chefferie et secteur, qui est un encadrement. C'est vrai que les moyens manquent. Les accords que nous avons signés à Maputo, il faut utiliser 10% du budget national pour l'agriculture. Mais jusqu'à présent, on n'est même pas au-delà de 2%. C'est le problème de mobiliser les recettes que tous les Congolais doivent comprendre, parce que dans un pays, il y a deux sécurités. Là, il y a la sécurité des armes pour dormir, mais il y a la sécurité alimentaire.
Monsieur le ministre, je ne vous interromps pas, mais vous évoquez, vous dites que la part du budget de la RDC pour l'agriculture n'est pas au-delà de 2%. On sait que le budget, c'est aussi, n'est-ce pas, le miroir hein, à travers lequel on voit les priorités d'un gouvernement donné. Alors, lorsque la RDC n'arrive pas à octroyer 2% de son budget à l'agriculture, cela voudrait dire que l'agriculture, c'est un secteur qui n'est pas prioritaire pour le gouvernement congolais, n'est-ce pas, monsieur le ministre?
Non, c'est pas vrai. Le problème n'est pas celui-là. Qui a prévu qu'on nous tue dans le... Bénin, on donne priorité dans le budget à sécuriser les gens. On dépense beaucoup là-bas. Le gouvernement ne peut pas faire autrement. Il faut protéger nos populations. Et vous savez, des guerres atypiques comme celle dans le nord Kivu là-bas posent des problèmes de mobilisation des moyens. Donc ce n'est pas qu'on ne veut pas les faire ou qu'on ne les sait pas. On les sait. Mais quand ça arrive qu'il faut protéger nos populations contre toutes les tueries, il faut réagir d'abord. Donc j'ai dit, vous m'avez pris de court, j'aurais bien voulu vous répondre du tic au tac, comme vous êtes en train de le faire. Je vous explique que nous avons un programme. Et ce programme, malgré les 2%, nous sommes partis à l'heure actuelle. Les représentants de la FAO vous ont dit, vous avez voulu savoir, depuis Maréchal Mobutu, on a distribué les tracteurs, et que Raïs, pas plus tard qu'il y a 3 ans, en a sorti à peu près 2000, ça n'a rien donné. Nous avons adopté la politique de production en régie, d'abord des petits parcs agro-industriels, qui doivent produire pour des zones où il faut intervenir pour la soudure, c'est ainsi que nous en avons 6 pour le moment. Nous avons dans la vallée de Ruzizi, nous avons dans le site Kivu, nous avons à Kanyama, Kisamba, au Lomami, nous avons en Kwadi au Kasai oriental, à Lubondai au Kasai central, à Nkundi au Congo central et à Mongata dans la ville de Kinshasa. Comme l'agriculture est à des niveaux, les cultures qui sont faites là-bas sont déterminées par les provinces. Pourquoi nous l'avons fait? Nous l'avons fait parce que ces stations vont encadrer nos compatriotes qu'on appelle petits producteurs sur un rayon de 50 km tout en produisant, en assurant au pays la production. Et aussi, ça n'a pas seulement le but de produire. Vous imaginez qu'à l'heure actuelle, un paysan qui fait du maïs produit 800 kilos. Nous voulons les ramener à 4 tonnes, 5 tonnes. Donc, en même temps, il produit, en même temps, il chasse la pauvreté. Vous avez vu que nous avons vendu les riz sur le marché ici, que le gouvernement a produit par ce programme-là, qui est un programme public-privé avec une entreprise belge.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué le plan de relance de l'agriculture que vous avez conçu et lancé, et qui est chiffré à 4 milliards 400 millions de dollars américains. Et avec quoi, avec quel budget vous allez financer un tel plan, monsieur le ministre? Et est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de plan, que l'on qualifie souvent de plans qui ne sont pas adaptés aux réalités de la RDC, parce que à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas eu assez de moyens pour financer ces plans, et donc on a passé le temps, n'est-ce pas, sans pouvoir fournir des efforts pour booster l'agriculture. Pendant ces temps-là, le nombre de personnes en insécurité alimentaire continue à croître, n'est-ce pas, que il faut plutôt, comme le disent certains experts, tenir compte des réalités de la RDC, de sa capacité de mobiliser les ressources, et donc les plans doivent tenir compte de cette capacité-là, au lieu de penser à des milliards qu'on ne saura pas facilement mobiliser.
Oui, ça me fait rire toujours. C'est comme l'œuf et la poule, hein. On vous dira qui est l'aîné. C'est toujours la même chose, on nous dit qu'on ne construisait pas Inga, vous n'avez pas encore des usines. Et quand vous voulez installer les usines, on vous dit qu'il n'y a pas d'énergie. Non. Le plan, c'est un plan qui permet à toutes les provinces de tirer ce qu'ils peuvent faire là-dedans. Et avoir les ambitions, je vous dis qu'on aura commencé à produire. On n'a pas attendu. Si vous voulez, vous viendrez avec moi, vous irez vers Mongata, nous commençons à récolter sur 800 hectares les maniocs. Parce que les sites, nous installons en même temps les usines de transformation. Donc, il faut attaquer quelque part. Nos paysans ne doivent pas rester des paysans éternellement pauvres. Il faut changer de méthode. Il faut qu'ils produisent et qu'ils s'enrichissent aussi. On ne doit pas les laisser dans l'état où vous dites, on commence par où? Ce n'est pas avec les ONG qu'on va développer un pays. Ces paysans doivent devenir des fermiers que nous formons. C'est ça que nous voulons réaliser, nous autres.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué les difficultés que vous connaissez, n'est-ce pas, suite à toutes ces guerres qui affectent une partie importante de notre pays. Mais nous avons Monsieur Al Gore, l'ancien président des États-Unis, qui avait affirmé il y a de cela quelques années dans un de ses ouvrages que plus de 50% des terres arables de la RDC sont bradées, c'est-à-dire 120 millions d'hectares de terres arables que compte la RDC sont déjà cédés aux étrangers. Et si cette information s'est confirmée, n'est-ce pas là une certaine incohérence lorsqu'on sait que beaucoup de gens sont en insécurité alimentaire, mais dans les mêmes contextes, on peut se permettre de céder des terres arables aux multinationales qui les exploitent pour leur propre compte, même, monsieur le ministre?
Non, il faut pas qu'on... Évitons tout ce qui est écrit, vous êtes vous-même ici. Vous avez vu combien de multinationales qui ont pris des terres? Nous en avons 80 millions. Mais il y a des endroits où nous n'avons même pas encore mis pied. Nous ne vendons pas les terres. Ça, c'est ce que j'ai dit à tous les investisseurs. C'est ça que le programme que vous avez, que vous entendez, programme volontariste, nous nous installons, mais nous travaillons avec nos compatriotes sur les terres où ils sont leurs propres terres. Donc on n'a pas vendu. En tout cas, moi, mon ministère ici, je n'ai pas vu des dossiers de terres vendues. Mais n'écoutez pas toujours ce qu'on veut qu'on vous parle. Commençons à raisonner congolais et faire des programmes nous-mêmes.
Merci, monsieur le ministre. Nous vous gardons dans cette émission. Victor Nzuzi, vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Comment vous analysez les conclusions auxquelles est parvenue la FAO?
Je pense que c'est vraiment une conclusion qui doit normalement nous interpeller, comme le disait le ministre, avec toutes les ressources, toutes les potentialités dont nous disposons. Mais je voulais simplement ajouter à ce que disait le représentant de la FAO, que ça ne fait pas de mort, mais quand j'ai lu ici les documents écrits le coût de la faim en Afrique, pour la RDC, nous avons 43% de la mortalité des enfants en RDC associée à la sous-alimentation. Et ces enfants congolais sont en train de mourir encore maintenant où nous sommes en train de parler. Donc la mort est là, elle est certaine. Alors, la conclusion ici, d'abord les statistiques. Bon, je pense qu'il y a des statistiques qu'ils utilisent, ils ont une façon de récolter toutes ces données. Mais pour nous, dans nos villages, ce que je remarque, c'est qu'il y a un grand problème. Non seulement l'État ne soutient pas l'agriculture, mais il y a aussi ce sérieux problème de l'information, de la formation. Il faudrait former les Congolais, il faudrait le former par rapport à l'alimentation. Nous avons des fruits qui sont en train de moisir, des fruits qui sont en train de tomber. Et voilà, personne ne s'en occupe, personne ne m'informe. Vous avez des Congolais aujourd'hui qui peuvent consommer ce qu'il faut pour avoir l'équilibre par rapport à leur alimentation, mais ils consomment n'importe quoi. Donc cette formation est très très primordiale. Lorsque le gouvernement aujourd'hui a mis sur pied un programme qu'on appelle, je ne sais pas, programme de relance agricole, mais c'est, ça fait un peu mal parce que ce programme de relance agricole, on parle de crédits fournisseurs. Le ministre, je crois, pourra expliquer ce qu'est les crédits fournisseurs. Mais nous croyons que le gouvernement ne fait vraiment pas assez d'efforts. Déjà, le 16 de l'année passée, Lac-Mavallée, le président Félix Tshisekedi avait lancé un ambitieux programme. Son programme qu'il appelait programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et qui devait sortir 20 millions de Congolais dans nos milieux ruraux et périurbains de la pauvreté, la famine aussi. Mais où en sommes-nous avec ce programme? Les 4 milliards dont on parle, moi je ne sais pas, ce programme concrètement sur terrain, il est où? Moi je suis au Congo central maintenant, la campagne agricole devait être lancée, je n'ai vu aucun sou de l'État congolais, aucun sou de la province, et ben, voilà quoi, donc... L'agriculture, le paysan sont abandonnés, alors abandonnés à eux-mêmes. Et tous les discours qu'on est en train de faire à Kinshasa, c'est des discours. C'est des discours, parce que nous sommes dans la décentralisation. Il fallait que le programme agricole soit exécuté, élaboré en province. Voilà, Kinshasa confisque 40% de ressources, de revenus de province. Et voilà, on fait des discours sur le développement. Moi, je crois que
On est loin de la réalité dans notre pays et c'est malheureux, c'est la honte pour ce pays qui a tout, l'eau, la terre. Où est cet aménagement du territoire qui peut permettre à ce qu'on puisse lutter contre les inondations, par exemple, qu'il y ait des digues, qu'on installe, par exemple, des espaces rizicoles. Voilà, des grands projets. Je peux vous citer l'exemple d'un grand projet qui a eu PDPC dernièrement avec la Banque mondiale. Et ces projets devaient aménager des sites irrigables, des sites rizicoles. Aucun site n'a été aménagé, hein. Aucun site. Aucun, alors. Et le projet est fini. Voilà des millions de sous engloutis comme ça. Et quand vous voyez le manioc ou le produit vivrier, vous voyez le manioc. J'ai vu même au centre de recherche de l'INERA, à côté où je travaille, des boutures qui ont été coupées par le projet. L'INERA a fait le travail, le boutir était là, on a coupé le boutir et les boutirs ont séché. Voilà, voilà le projet qu'on lance dans notre pays. Donc c'est la honte. Aussi, quand je parle de la formation, vous avez des chèvres, vous avez des moutons. Le paysan pouvait consommer leur demi-litre ou je ne sais pas, demi-verre de lait. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, à part le kivu, on ne sait pas qu'avec la brebis, avec la chèvre, on peut avoir un peu de nez. Donc tout ça, c'est des encadrements qui doivent être assurés par le gouvernement, qui doivent être assurés par les intellectuels, par de véritables projets de développement. Malheureusement, je vous assure, c'est la honte, hein, parler de la famille dans ce pays, parler de programmes agricoles. C'est la honte.
Victor Nouzi, c'est la honte comme vous le dites. Et vous êtes dans ce secteur d'agriculture hein, et vous évoluez beaucoup plus au Congo central. Et comment vous pouvez comprendre que plus de 50% des terres arables de la RDC, et, bon, évidemment, là, c'est une information qui doit être vérifiée, c'est contenu, n'est-ce pas, dans un des ouvrages de M. Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, que plus de 50% des terres arables de la RDC soient bradées et cédées aux multinationales dans un pays où non seulement les quarts de la population, comme le dit la FAO, les quarts de la population est en insécurité alimentaire, mais aussi le gouvernement dépense des centaines de millions de dollars par mois pour importer la nourriture.
Ah oui, le gouvernement dépense, selon les données du gouvernement et les autres institutions, près de plus d'un milliard de dollars pour importer le produit agricole. Et quand vous parlez des terres qui sont bradées, des terres qui sont spoliées, des terres qui sont occupées, vous savez, ici où je vous parle, je vis dans un milieu où les terres ont été prises par des concessionnaires belges à l'époque, en 1923, la compagnie soi-disant J. Valenquer, aujourd'hui devenue Sogenac. 1923, s'il vous plaît, et jusqu'aujourd'hui, malgré la montée démographique, aucun centimètre carré n'a été rétrocédé et le paysan manque de terres. L'État regarde. Vous parlez des grands concessionnaires, oui, je vais y arriver, mais commencez par parler de tous ces hommes politiques de Kinshasa qui ont pris tout Kasangoulou, qui ont pris tout le plateau de Bateke et qui mettent des panneaux, des pancartes, concession Intel. C'est de la spéculation pure et simple, ils ne plantent rien, alors que la loi foncière voudrait qu'on occupe sa terre, donc c'est bien inscrit dans la loi agricole. C'est bien inscrit dans la loi foncière.
Merci.
Lorsque vous n'avez pas cultivé vos terres, et voilà, donc, les multinationales viennent, on donne pour l'exploitation des minerais, on donne pour planter les palmiers à huile,
merci.
On donne pour planter, en fait, on n'a presque pas de politique là-dessus. Malheureusement, moi, je suis sans terre dans mon village, je sais lorsque une entreprise multinationale occupe des terres, je connais les conséquences, je vis ces conséquences. Malheureusement, notre gouvernement ne prend pas ces dispositions-là.
Merci,
malheureusement.
Merci, Victor Nouzi. Monsieur Aristide Ongon Obame, les auditeurs ont dénoncé leur point de vue par rapport à ce sujet et vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Kananga, au Kasai Central.
Je réponds de Jingel Kazadi depuis Kananga, au Kasai Central. Je suis contre la vie donnée par le gouvernement congolais et aussi l'État donné par l'FAO. Je pense que pour lutter contre l'accroissement du nombre de personnes en insécurité alimentaire, l'État congolais doit veiller à ce que le secteur de l'agriculture soit une de sa priorité. Ah, grâce à ce secteur, beaucoup de pays se sont développés dans le monde. Bref, on doit obliger à chaque citoyen d'avoir au moins un champ, même des amarantes, afin de lutter ensemble contre les dits accroissements.
Monsieur Aristide Ongon Obame, comment vous réagissez à ces commentaires de l'auditeur qui appelle depuis Kananga au Kasai Central?
Donc, je ne sais pas si la connexion était bonne. Je vais essayer de répondre. J'espère que j'ai bien entendu sa préoccupation. Alors, que tout Congolais doit avoir un champ. Je pense que c'est ce qu'il a dit et que c'est ça qui permettra peut-être qu'on sorte de cette situation. Pas totalement. Ma réaction, c'est que c'est une possibilité. S'il m'a bien suivi, j'ai parlé de l'agriculture familiale. Je pense que c'est une autre manière de parler de l'agriculture familiale. C'est un aspect de ce qu'il faut faire pour développer le secteur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a développées tout à l'heure. Je peux lui dire qu'il développe un aspect qui est très important, mais avec ce seul aspect, on ne va certainement pas régler le problème de la RDC. Le problème de la RDC, on l'a expliqué clairement. La RDC connaît d'autres problèmes qui, même si on donne une parcelle de terrain à chaque Congolais, s'il ne peut pas rester sur place, s'il est obligé de se déplacer parce qu'il y a des conflits, je pense que c'est un peu, vous savez, la sécurité alimentaire est un problème multisectoriel. Nous devons effectivement comprendre ça, que le secteur agricole, les techniciens de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture doivent faire des efforts dans ce domaine. Mais si le ministère de l'Agriculture fait des efforts et qu'il n'y a pas d'infrastructure routière et qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de sécurité, tout ce qu'on peut faire dans ce secteur-là va être annihilé. Donc c'est vraiment un effort global. Et je souhaite que tout le monde le comprenne, que la sécurité alimentaire ne concerne pas que le seul ministère de l'Agriculture. Le ministère, il a un rôle central à jouer, bien entendu, mais il a besoin que la planification globale du pays donne une priorité à cette activité, qu'au niveau de la loi des finances, le ministère des Finances comprenne qu'il faut allouer des fonds à ce secteur, et que l'enseignement, vous savez, on a des grandes écoles ici, qui sont connues dans toute l'Afrique, dans le secteur agricole. Mais ces grandes écoles aujourd'hui sont dans quel état? C'est des choses qu'il faut renforcer. Si vous allez en province, vous allez trouver les secteurs agricoles, les inspections provinciales, qui sont dans l'état que vous connaissez mieux que moi, ce n'est pas avec cette gouvernance qu'on peut effectivement développer le secteur. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte, pas tout simplement donner une parcelle de terre à chaque Congolais. Merci.
Monsieur Aristide Ngone Obame, tous les gouvernements qui se sont succédés dans ces pays ont toujours mis en place des programmes, des plans, n'est-ce pas, avec comme objectif ultime d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en RDC. C'est vrai que vous avez évoqué les questions sécuritaires que nous connaissons depuis plusieurs années, mais bon, on se rappelle que pendant la décennie 80, il n'y avait pas d'insécurité dans ces pays, mais on connaissait toujours les problèmes d'insécurité alimentaire. Est-ce qu'on peut dire que l'autosuffisance alimentaire en RDC serait une utopie?
Non, je ne suis pas de cet avis. La FAO n'est surtout pas de cet avis. Si la FAO était de cet avis, on ne serait pas ici. Si nous sommes ici, c'est parce que très sincèrement, je vous le dis du fond du cœur, c'est parce que très sincèrement, nous croyons en ce pays. Ce pays a des potentialités. Il y a des pays qui n'ont pas tout ce que la RDC a et ont atteint l'autosuffisance alimentaire.
Monsieur Aristide, parce que vous croyez à ce pays, alors qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour que les pays puissent atteindre l'autosuffisance alimentaire?
Il faut vraiment, dans un... Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'insécurité avant. Effectivement, vous avez raison. Il faut qu'il y ait une meilleure gouvernance du secteur, que le secteur agricole soit véritablement perçu comme une priorité et que cette volonté politique se reflète dans la loi des finances. Ce qui a été dit à Maputo et à Malabo, 10%, il ne faut pas prendre ça pour des slogans, c'est une réalité. Tant qu'on n'atteint pas ce degré-là, le secteur n'est pas prioritaire. Et vous avez aussi beaucoup de partenaires qui sont prêts à accompagner ce pays. Mais ils ont besoin de cette signalage, qu'il y ait effectivement une volonté politique sur la durée, et vous allez voir que ce pays très rapidement va décoller.
Merci, M. Joseph Antoine Kasonga Mukuta, M. le ministre. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Je m'appelle Erike Walenga, je vous appelle depuis Kisangani. La sécurité alimentaire est juste ici le défi majeur dans les équipes quotidiennes congolais. À la base, les Congolais veulent être le demandeur au lieu des créateurs d'emplois. Qu'est-ce que l'aide au développement a apporté dans ce pays? Les millions que sollicite le FAO pour faire face à la sécurité alimentaire n'aura jamais d'impact positif sur le terrain, car les gestionnaires du projet ne vont pas le gérer rationnellement. Sinon, les peuples congolais doivent investir sa confiance une nouvelle robe afin de faire avancer ce pays. Comment y parvenir à travailler comme si la politique mobilité reste son hommage.
Monsieur Joseph Antoine Kasonga Mukuta, monsieur le ministre.
Oui, merci. Je réponds à notre compatriote. Nous devons tous, il n'y a pas de saints d'un côté, de diables de l'autre. Non, nous tous, les Congolais doivent se mettre debout. Vous verrez, l'élite congolaise doit laisser les week-ends dans des bars, qu'il aille sur les champs comme on les voit dans les autres pays aussi. Parce que nous voulons qu'on se dise des choses tout haut. Il faut faire. J'ai entendu mon frère de Bakongo dire qu'il n'y a rien sur le terrain. C'est pas vrai. Nous avons le programme Papakine qui encadre. Il y a d'ailleurs, on est en train de monter 3 usines dans la Lukaya, là-bas, à l'heure actuelle, où il y a l'usine pour les non-palmistes, les riz et les maïs. Tout neuf. S'il n'est pas informé, qu'il s'informe. En Kundi, nous avons produit du riz qu'on a vendu aux gens ici. Ça vient d'où? Il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. C'est ça qui est mauvais. Mettons-nous, c'est vrai, nous sommes trop bas avec tout ce que nous avons. Nous devons tous faire un effort.
Monsieur le ministre, justement, à votre avis, qu'est-ce que la RDC doit faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Vous avez suivi Aristide Ongon qui a proposé une meilleure gouvernance dans le secteur de l'agriculture en tenant compte des 10% des budgets requis.
Mais je vous ai répondu dès le début. Je vous ai dit que le chef de l'État a dit à la revanche de sortir le sous-sol. Et que nous avons commencé le programme volontariste dans l'esprit, parce que on a dit que dans les temps, vous avez posé la question, qu'il y a eu des tracteurs. C'est parce que nous avons compris que les gens ne savent pas entretenir ces tracteurs. C'est ainsi que nous créons ces sites où on entretient tout, où on produit les semences, où on forme les fermiers pour aller de l'avant. Nous avons commencé. On n'est pas statique, on est dynamique, on est en train de faire quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes un grand pays. C'est vrai qu'il faut remonter jusqu'à 10%, mais les 10% ne peuvent venir que des impôts que les citoyens de ces pays vont accepter de payer. Combien acceptent de payer les impôts? C'est ça la question. Donc tout le monde doit se mettre au travail. Nous prenons conscience de cela. La malnutrition, c'est pas dit tout simplement comme on veut le dire. Vous savez que nous sommes 450 tribus dans ce pays et chaque tribu a au moins une spécialité de nourriture. Et vous imaginez si on faisait un menu congolais, mais nous serons tous gras.
Merci. Monsieur Victor Nzouzi, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient des Kolosi.
Moi, c'est Adonis Kamingwa à partir de Kolosi. Vu ces accroissements inexpliqués du taux de malnutrition et sous-alimentation qui prennent des proportions inquiétantes, je me sens très gêné quand les autorités nous chantent les richesses du sol et sous-sol congolais qui ne corroborent pas avec le niveau de vie du Congolais. Ce contraste s'explique par la mauvaise foi ou l'inexpérience de nos dirigeants qui cristallisent leurs objectifs presque la majeure partie dans l'investissement des minerais, pendant que l'agriculture, l'élevage et l'exploitation de la faune et flore congolaise devrait être un second plan pour soutenir la production locale pour une éventuelle consommation locale, quand les Occidentaux feraient leur caprice en baissant les prix des métaux à leur guise.
Monsieur Victor Nzouzi, votre réaction?
Oui, ben, ce qu'il dit là, c'est vrai, mais pour arriver à produire au niveau local, il faudrait qu'on arrive réellement à cette véritable décentralisation, à une véritable démocratie, à une véritable gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, le ministre a parlé, par exemple, d'Nkundi. Je réponds à cette question. Le ministre a parlé d'Nkundi. Mais c'est presque une transposition de Bukangalonzo. Parce que pourquoi on n'a pas installé de volontaires, volontaristes du milieu pour exploiter Nkundi? Pourquoi on ne pouvait pas le faire? Pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas être initiés à l'entrepreneuriat pour que ce soit ces intellectuels-là, ces paysans-là évolués, ou ces ingénieurs du milieu qui s'installent? Pourquoi on a importé? Donc moi, je pense, je connais bien, même quand il parle, le ministre parle de l'usine, je ne sais, de noix de palme et consort, mais je connais ce qu'a donné le projet PDPC, et moi je pense que le ministre doit bien évaluer le projet PDPC, parce que le résultat n'est pas celui-là qu'il est en train de croire. J'ai été dans le comité de suivi du projet PDPC,
et donc je sais de quoi je parle, je connais bien.
Monsieur Victor Nzouzi,
oui,
parler de l'autosuffisance alimentaire en RDC serait utopique?
Non, c'est pas utopique. Il suffit tout simplement qu'on s'y mette. La famine, par exemple, dans des villages, les gens souffrent de la famine dans des villages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'ils doivent vendre toutes leurs réserves alimentaires pour pouvoir payer la scolarité, pour pouvoir payer la santé. Et donc, ils doivent consommer même les réserves. Et quand on n'a pas de l'eau potable, comme disait le représentant de la FAO, c'est multidimensionnel cette situation de la famine. Et quand on n'a pas de l'eau potable, on tombera malade, on sera malade tout le temps. Et donc on va consommer ses réserves. Quand il n'y a pas de soutien dans l'agriculture, ce n'est pas utopique. Il suffit tout simplement qu'il y ait une politique, une véritable politique agricole. Le ministre est là, mais pourquoi la loi agricole est toujours en souffrance jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi cette loi-là continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui? Les mesures d'accompagnement ne sont toujours pas là. Et le fonds, le soi-disant fonds national pour l'agriculture, le FONADA, n'est toujours pas là. Pourquoi?
Merci.
Pourquoi? Donc, voilà, il y a un laisser-aller. On doit sortir du discours. Monsieur le ministre, je voudrais bien que mon pays aille de l'avant, que les Congolais soient nourris. Parce que s'ils sont mal nourris, ces enfants-là, ils ne seront jamais intelligents. Et donc, le pays va toujours régresser. Donc,
merci.
Voilà, il faut mettre le moyen.
Merci,
sortir
du discours.
Être concret.
Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Aristide Ongon Obame, c'est quoi votre mot de la fin?
Ok, merci. Le mot de la fin, c'est de souhaiter, la première chose, c'est qu'au prochain cadre que nous allons, qui a même déjà commencé, les enquêtes ont commencé, qu'on obtienne des chiffres, le nombre de personnes en insécurité alimentaire à la baisse.
Merci.
Ça, c'est le premier souhait. Mais cela ne va pas tomber du ciel comme de la pluie. Il faudra qu'on fasse des efforts. Donc, je voudrais aussi que tout le monde comprenne que la sécurité alimentaire est un domaine multisectoriel, que nous avons tous un rôle à jouer. Enfin, je vais m'adresser aux bailleurs, aux partenaires de la RDC, et pour confirmer que c'est vraiment l'occasion de regarder ce pays et de l'accompagner pour qu'on puisse, dans un bref délai, renverser la tendance parce qu'elle n'est pas du tout bonne.
Merci.
Merci.
Merci, Monsieur le ministre Joseph-Antoine Kasonga Mukuta. Votre conclusion.
Je suis très heureux de voir que nous nous réveillons tous. Et mon compatriote qui est dans le Congo central, qui vient de me voir, je sens qu'il a vraiment cette fougue-là de faire marcher les choses. C'est vrai. À Bukangalonz, comme il est dit, à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de semer 1500 hectares avec des jeunes Congolais, ingénieurs et mécaniciens et tout. Donc je pense que si nous tous, nous nous mettons au champ, ça va marcher.
Merci.
Je vais dans des pays comme le Kenya, je vois tous les cadres, le week-end, vous ne les trouvez pas dans les bureaux, vous les trouvez dans leur village, chacun avec un champ. Je voudrais que nous les fassions, nous aussi, et que nous puissions produire à manger pour nos populations.
Merci. Monsieur Victor Nzouzi, votre conclusion?
Oui, je pense que nous pouvons sortir de cette famine, nous pouvons sortir. Simplement, il faudrait qu'on arrive à une véritable décentralisation, qu'il y ait une prise de conscience que le province, le programme agricole dans chaque province, comme inscrit dans la loi agricole, chaque province doit avoir un programme agricole. L'État national donne les directives et l'exécution des différents programmes élaborés à la base. Soutenir le paysan, soutenir les infrastructures, notamment les routes, et encadrer le paysan par rapport à cette alimentation. Il y a des produits qu'ils peuvent consommer, qu'on peut consommer, mais malheureusement qui sont négligés. Et soutenir aussi la lutte par rapport à l'environnement, parce que le chenille, le champignon et les autres insectes, le gibier, quand on détruit la forêt, eh ben, on ne les aura jamais.
Merci.
Alors que c'est une source de protéines. Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à Paul Bayanyama qui était la technique, et à Kéline Kouté et Dona Madimba qui l'ont réalisé, sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon soutien du programme sur Radio Capi.